18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, quel plaisir, on est jeudi et on est ensemble pour revenir notamment sur l'actualité d'hier soir que vous avez vécu notamment, mais pas que. Au sommaire de cette émission, eh bien ce qu'il vous attend jusqu'à 19h30, d'abord analyser, décrypter et commenter l'actualité. Nous reviendrons, vous savez quoi, sur ces débordements, notamment les ultra-droites. Arrestation de militants de l'extrême droite qui voulaient en découdre avec les supporters marocains qui, eux, voulaient tout simplement, dans un bon esprit, fêter tout ça. Eh bien, figurez-vous, nous allons tout à l'heure commenter cette actualité. L'affaire Quatennens, Adrien Quatennens, Sandrine Rousseau qui sort un violentomètre pour dénoncer la défense de Quatennens. Eh bien, on en parle. Qatargate, avec la vice-présidente, l'ancienne vice-présidente maintenant, sur ce que l'on sait des soupçons de corruption au Parlement. On reviendra aussi sur le Covid-19 avec cette vague puissante épidémique de Chine qui pourrait notamment, paraît-il, affecter la France et l'Europe. Ça, c'est les sujets qui vous attendent avec nos débatteurs influenceurs. Tout à l'heure, Jean-Pierre Colombiès qui sera avec nous, mais également Ménade Ouchenir qui sera aussi avec nous en direct et en toute liberté d'expression ici même pour commenter l'actualité à 18h30. Vous savez, c'est Pascal Boniface qui revient avec son billet d'humeur et son édito. Ça, c'est à 18h30. Et puis pour le moment, nous irons aller direction le Maroc pour aller recueillir un petit peu, eh bien ce matin, comment les Marocains se réveillent-ils avec cette ambiance de l'après-match. Allez, tout de suite, c'est parti, vous le savez, Les Informés et plus que jamais en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et bien sûr, j'ouvrirai l'antenne tout à l'heure pour recueillir parmi vous, évidemment, les déçus, les euphoriques, bref, vous êtes les bienvenus, vous le savez toujours ici, 01 53 48 3000, direction le Maroc, l'interview.
Les informés, l'interview.
Et vous savez, l'interview, c'est un peu comme hier, celui qui nous a fait vibrer depuis Casablanca. Il s'appelle Sédic Khalfi, Radio France. Il est correspondant pour France Info, RFI, France Inter. Sédic Khalfi, bonjour. Comment le réveil n'a pas été trop compliqué ce matin, Sédic Khalfi, bonsoir.
Bonsoir, Adil. Oui, c'était un petit peu la gueule, ce bois, effectivement.
Alors, qu'est-ce qui se dit ce matin, depuis ce matin? Qu'est-ce qui se raconte? J'aimerais que vous nous racontiez un petit peu, évidemment, l'après-match, évidemment, ce matin. Est-ce que certains ont regretté qu'au moins il n'y ait pas pu avoir 2-1? Moi, j'ai entendu beaucoup de choses ici en France. Qu'est-ce qui se dit là-bas? Qu'est-ce qui se raconte? Quels sont les échanges que vous avez eus?
Alors, la plupart des gens sont dépités, hein, bien évidemment. Ils auraient aimé que le Maroc l'emporte sur la France. Mais j'avoue qu'ils sont philosophiques. La plupart des gens sont philosophes et disent que c'est un beau parcours que les Lions de l'Atlas ont bien performé. Qu'en seulement 3 mois, Walid Regragui a réussi à fédérer non seulement une équipe, mais avec une ferveur populaire derrière qui l'a poussé à aller jusqu'à ce carré final. Et ça, c'est déjà très très bien. Après, effectivement, il y a des, on va dire 10% de personnes qui cherchent un responsable. Hein. Vous savez, il y a toujours des gens qui cherchent des responsables. Alors, les responsables, ben, en premier lieu, c'est Regragui. Autant il a été monté sur un piédestal, autant il y a des gens qui cherchent à le descendre en disant que c'est de sa faute. La stratégie qu'il avait menée depuis le début de ce mondial, de mettre un mur rouge en plus de Bono face au cage, il a changé hier et il a joué un coup de poker qui pour beaucoup n'est pas passé. Et puis également une deuxième tête de turc, c'est la compagnie nationale, la Royal Air Maroc, qui est tenue responsable du cafouillage qu'il y a pu y avoir avec les supporters à Doha.
À Doha. On parle de ce matin, vous savez quoi, eh bien d'un recours du Maroc contre l'arbitrage de la demi-finale face à la France. C'est aussi ça l'actualité d'aujourd'hui.
Oui, effectivement. Alors, je ne sais pas si ça va changer grand-chose, mais c'est pour, on va dire, pour l'honneur que ce recours serait déposé, effectivement, pour demander un pénalty qui n'a pas été accordé. Ça changerait rien au score, mais c'est encore une fois pour l'honneur que le Maroc déposerait ce recours. Il est aussi question que le Maroc organise la CAN. Ça a déjà, dans l'histoire, était question. Le Maroc est effectivement, je pense, un des pays africains à même d'organiser une CAN, avec des infrastructures autoroutières, des trains, des hôtels. C'est un pays touristique. Donc, peut-être que le Maroc pourra organiser la prochaine CAN. C'est ce qui se dit également.
la prochaine CAN, donc à confirmer, pourrait être organisée au Maroc. C'est ce que vous laissez entendre.
C'est ce qu'on m'a entendu, c'est ce qu'on m'a dit aujourd'hui. C'est... Alors, après, je ne sais pas si le Maroc va accepter, mais effectivement, à un moment donné, quand on veut se positionner comme organisateur ou futur organisateur de la prochaine Coupe du Monde ou d'une des prochaines Coupes du Monde, ça fait longtemps, vous le savez, le Maroc dépose des dossiers, et bien il faut passer par l'organisation de coupes régionales ou bien de Coupe du Monde de rugby, etc., etc., pour monter en compétence et prouver au monde entier qu'on est capable d'organiser des grands événements mondiaux.
À Casablanca, aujourd'hui, est-ce que le match pour la troisième place, hein, est-ce que le Maroc continue de soutenir son équipe de nationale pour samedi prochain? Vous savez que se disputent notamment Croatie-Maroc. Est-ce qu'il y a un enjeu là aussi? Attendu.
Bien entendu. C'est la troisième place qui se joue. C'est pas anodin, hein, comme pour le match France-Maroc. Il y aura des cafés qui seront bondés. Tout le monde sera derrière l'équipe nationale, avec toujours cette même intention qu'a impulsé Regragui, qu'a inculqué Regragui à son public. Dironia, faites confiance, donnez des ondes positives. Dironia, c'est ce qu'il a demandé comme un mantra de répéter, qu'il n'a cessé de répéter à son public. Et donc, cette troisième place, bien sûr qu'elle est importante, et ce serait un honneur que le royaume chérifien puisse accéder justement à ce podium final de cette Coupe du Monde au Qatar. Une Coupe du Monde au Qatar qui, vous savez, est chargée de symboles. Beaucoup disent, quoi qu'il en soit, ça restera la Coupe du Monde du Maroc, même si le Maroc ne gagne pas cette Coupe du Monde.
Dites-moi, Sédic Khalfi, au Maroc notamment, comment on s'apprête, comment les Marocains s'apprêtent à accueillir, vous savez, le retour de l'équipe nationale marocaine, évidemment dans quelques jours, la semaine prochaine précisément.
Alors, je peux pas vous dire précisément, mais je pense que
j'imagine ça va être un accueil de folie.
Voilà, ça annonce importante, notamment l'aéroport. Hein, comme vous le savez, ça se passe de la même manière pour les retours du Hajj en Tunisie, au Maroc, en Algérie, dans tout le Maghreb. C'est déjà une fête en soi. Alors imaginez une équipe nationale qui a eu un aussi beau parcours. Je pense que la police va essayer d'éviter qu'on aille tous à l'aéroport pour pouvoir accueillir ce 11 national avec leur entraîneur, encore une fois, Walid Regragui, qui pour moi a également réalisé un bel exploit, oui. Celui de fédérer une équipe où, vous savez, il y a des joueurs qui évoluent à l'étranger, qui sont nés à l'étranger, il y en a qui évoluent dans la Botola, le championnat national, et il y avait un conflit pendant des années entre ces deux catégories, et là, mais ils ont joué comme un seul homme, et c'est cette performance qu'a réussi à faire Regragui, d'unifier, on va dire, les maigris, les immigrés, et ceux qui évoluent dans le championnat national.
Vous êtes en train de nous dire que Regragui est devenu une véritable star, rock star au Maroc.
Exactement. Je vous parlais tout à l'heure de Nia. Et il y a une autre chose qu'il faisait quand il était entraîneur d'un club national ici au Maroc. C'était qu'il demandait au public de dire sire, go, vas-y, cours, un petit peu comme Forrest Gump. Il demande au public d'encourager son équipe en disant sire. Et c'est resté également une touch de cet entraîneur Regragui. Donc Nia. Et Sir, qui a pu lui permettre d'entraîner une adhésion populaire.
Dernière question. Ce matin, est-ce que les supporters, les Marocains, ont retrouvé leur vie classique ou est-ce que le Maroc continue de vivre, cette Coupe du Monde, Sédic Khalfi?
Ça continue de vivre avec beaucoup moins d'intensité, bien entendu. Il y a encore, je vous disais hein, tout à l'heure, cet effet un petit peu gueule de bois. En plus, il pleut sur tout le Maroc. C'est pluie plus gros vent. Ce qui est accepté ici, qui est d'ailleurs reçu comme une bénédiction et qui était vu comme un bon signe d'ailleurs pour ce match, malheureusement ça n'aura pas été un présage suffisant, puisque vous savez qu'ici au Maroc ça fait 5 ans qu'on attend la pluie et qu'on a un gros stress hydrique, donc on attendait cette pluie et donc ça donne un climat assez nostalgique, assez bizarre, pesant presque, entre la pluie, le vent et cette défaite d'hier, malheureusement, ça donne un climat assez pesant, effectivement.
Alors, c'était pas tout à fait ma dernière question, et là, pour le coup, c'est ma dernière question, Sédic Khalfi. Justement, j'ai cru comprendre, j'ai cru entendre, notamment les bribes de couloir, que le roi du Maroc s'apprêtait à accueillir, notamment, et à mettre à l'honneur l'équipe nationale marocaine. Est-ce que vous avez des infos dans ce sens?
Ah, non, aucune info à propos de cela. Ça ne m'étonnerait pas. Effectivement, beaucoup de gens disent qu'effectivement, ils seront certainement reçus d'une manière ou d'une autre, soit au palais, soit lors d'une autre cérémonie. Et effectivement, puisqu'ils auront à emporter l'adhésion populaire. C'est en ce sens-là qu'il faut le prendre. C'est-à-dire que le roi serait le représentant de l'adhésion populaire.
Merci Sédi Khalfi, j'espère vous retrouver très vite, évidemment bienvenue quand vous voulez. Ici même, vous êtes le correspondant de Radio France, France Inter, France Info, RFI notamment. Merci mille fois d'avoir été avec nous et de nous avoir fait vivre tout cela sur notre antenne. À bientôt Sédi Khalfi. Nous allons aller maintenant direction Marrakech. Marrakech où on va retrouver, vous savez, un fervent supporter notamment qui était avec nous hier soir. C'est Mehdi, bonsoir Mehdi.
Bonsoir, comment allez-vous ?
Très bien mon cher Mehdi. Alors ce matin, le réveil n'a pas été trop difficile pour vous et vos amis ?
Non, y a pas, nous étions, bon, on va pas se mentir, un peu déçus de la défaite de l'équipe du Maroc, mais ça a été quand même une fête.
Ouais.
Ça a quand même été une fête. Là, pour preuve, les gens, après le match, sont sortis. Ont scandé leur joie d'être arrivé premièrement dans cette jusqu'à ce niveau-là d'excellence.
J'ai vu effectivement, vous m'avez envoyé une vidéo hier où on pouvait voir les supporters marocains, malgré évidemment la défaite d'hier soir, fêter dignement sur la place de Marrakech.
Oui. C'est incroyable. Et partout, vraiment partout dans Marrakech. Mmh. Ça, c'est la première chose. Et une deuxième chose, nous étions hier soir, un petit peu déçu comme je vous l'ai dit, mais il y avait pas mal de Sénégalais, de Maliens, de Togolais, de Béninois, d'Africains subsahariens, comme on l'appelle, même si je n'aime pas ce terme, qui étaient en gros à nous consoler en nous disant mais les frères, vous nous avez tous portés. Et rien que pour ça, ça fait quand même chaud au cœur.
Ouais, effectivement, ouais. J'imagine que vous êtes derrière la Croatie, le match qui dispute d'ailleurs la troisième place hein, de ce classement mondial, justement de cette Coupe du Monde au Qatar à Doha. Les Marocains s'apprêtent aussi à suivre le match qui sera diffusé samedi prochain.
Bien sûr. J'ai commencé à rechercher une place parce que les places s'achètent cher pour dans les cafés, hein, je parle. Hein. Dans les cafés, on cherche des places un petit peu à droite à gauche. Les Marocains, la ferveur continue. J'ai écouté la personne qui était juste avant moi. Je pense que le roi véritablement va faire quelque chose d'extraordinaire pour honorer nos champions et les champions de l'Afrique.
Et les champions de l'Afrique. Merci Mehdi, en tout cas, de nous avoir fait vivre tout cela en direct de Marrakech. Merci à vous et puis bon courage pour samedi. Hein.
Merci beaucoup.
Allez, à très vite, à bientôt. Portez-vous bien, mon cher Mehdi. Merci.
Au revoir,
à bientôt. 18h13 précisément, nous allons lancer la pub et on va se retrouver dans des poignées de minutes, notamment avec Khalid. Vous savez, un supporter depuis Paris, lui qui voulait absolument parler de l'ambiance d'hier soir, un peu parisienne. Et on parlera notamment des ultra-droites, vous savez, qui voulaient en découdre avec les supporters marocains. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous. Et puis le 01 53 48 3000, vous pouvez nous appeler là, tout de suite, Anthony vous attend. Bien sûr, l'antenne est ouverte.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Si vous venez de nous retrouver, les 18h19 précisément. Et on continue de prendre des appels. Et notamment, vous savez quoi ? On était à Casablanca. On était notamment aussi précisément à Marrakech. On va retrouver un supporter aussi, notamment, qui lui a vécu, vous savez, depuis maintenant plusieurs matchs auprès des Marocains. Il est Marocain lui-même. Il vit en France. Il s'appelle Khalid. Bonsoir, Khalid.
Bonsoir.
Bienvenue, mon cher Khalid. Vous, alors ?
Merci.
Je voulais absolument que vous soyez à l'antenne avec nous parce que vous étiez dans les différents bars, cafés parisiens où vous avez vécu les matchs de l'équipe nationale marocaine. Comment avez-vous vécu, vous, hier soir et ce matin notamment, quand on fait un retour sur l'après-match? Comment vous captez tout ça, mon cher Khalid ?
Bien d'abord, je vous remercie, Adil, et je remercie évidemment je salue surtout les auditrices et les auditeurs, mais vous me faites une réputation, je n'étais pas dans tous les bars à mon âge, je suis un vieux monsieur.
Non, ce que je disais, tous les bars, pardonnez-moi, c'est une... On s'est compris, hein. Vous avez vécu les matchs dans les cafés et les bars, ou peut-être ailleurs, ou peut-être je me trompe.
Absolument, absolument. Non, non, mais j'ai passé une soirée, une première, de manière absolument fortuite. Je partais du bureau de la Défense et à Courbevoie, une soirée privatisée avec des jeunes. C'était absolument exceptionnel. J'étais hélas le doyen d'âge. J'ai passé une très belle soirée. Il y avait même la musique, etc. En fait, pour répondre à votre question qui est sérieuse et qui est beaucoup plus précise que ce que cette introduction que je viens de faire, en fait, moi, j'ai regardé les matchs avec deux dimensions. La première, c'est que je ne suis pas un grand connaisseur. Je ne suis même pas du tout connaisseur de football. Je l'aime comme spectacle, mais je ne suis pas connaisseur. Donc, j'ai trouvé que tout le monde jouait bien et que l'équipe marocaine jouait très, très, très bien. Ça, c'est la première des choses. Donc, j'ai pris plaisir à observer. Ensuite, j'ai vu que c'était des jeunes disciplinés, rigoureux, impliqués, motivés, intègres, avec des gestes humains à l'endroit de leur maman notamment, etc. Bref, je me suis dit, si tous les pays africains, arabes, etc., pouvaient leur ressembler dans la gestion des affaires, ce serait formidable. Donc moi, je les ai trouvés admirables, véritablement. Et enfin, évidemment, je supportais le royaume du Maroc, auquel je suis extrêmement attaché, bien entendu. Voilà, et puis comment j'ai vécu cette défaite ? Bah, écoutez, le sport, c'est ça. Savoir gagner est à la portée de n'importe qui. En revanche, savoir perdre avec élégance et dignité, surtout quand c'est du sport, là, c'est magnifique. Et le comportement de Regragui, le comportement des joueurs a été, je crois, très digne. En tout cas, moi, j'en ai pas vu beaucoup des scènes et des images, mais j'ai trouvé que Regragui a été remarquable dans la réussite. Est remarquable en s'inclinant devant une équipe qui a eu plus de chance, je crois. Donc, mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste. On m'a dit qu'il a eu plus de chance parce que je voyais que la balle ne rentrait pas.
Donc bon, Khalid, bien au contraire, vous n'êtes pas déçu, mais les Marocains ont rempli leur mission.
Eh bien, personne ne s'y attendait, et c'est cela qui est curieux. Moi, je, encore une fois, sans être spécialiste, mais quand même, j'ai regardé ma première Coupe du Monde en 1966 à la télévision en noir et blanc là-bas. Telefunken Thompson, je me souviens plus de la marque, en 1966, Wembley et l'Angleterre, il y avait Pelé qui nous faisait rêver à l'époque. Mais je vois donc les Coupes du Monde tous les 4 ans. Non, cette équipe, personne ne s'y attendait. Mais enfin, c'est quoi? Pourquoi personne donc dans les spécialistes? Alors que les joueurs jouent dans des clubs internationaux, que le Maroc a des équipements sportifs de haut niveau et des écoles de formation, je crois que le sport de football à l'européenne, ils jouent dans le grand club, donc ils savent jouer. Enfin, je ne vois pas pourquoi les gens sont surpris. Moi, la surprise venait plus de la Corée. Le Japon joue au football depuis fort longtemps. Alors moi, ça m'intéresse en tant que phénomène politique et géopolitique aussi, quand même. Hein. Mais voilà, donc les équipes marocaines, ils sont franco. Et puis l'équipe de France, comme l'équipe du Maroc, sont des équipes avec beaucoup de binationaux. Donc quelque part, les deux équipes ont gagné, certes. Les deux drapeaux ont flotté, c'est formidable, mais enfin, je crois que l'Afrique est pour l'essentiel dans cette affaire, quel que soit le vainqueur. C'est l'Afrique qui donne le gros des troupes pour jouer au football.
Voilà. Eh bien, merci mon cher Khalid, merci à vous, merci
en
infiniment.
Tout cas, si vous me permettez, Adil, un très petit mot,
oui.
Je voudrais dire, et mon âge n'est pas un secret, j'ai 66 ans depuis quelques jours, je voudrais dire aux plus jeunes, ceux qui ont moins de 20 ans, je vous en supplie, j'ai l'âge de votre grand-père, je vous en supplie, soyez heureux qu'on soit arrivé là, regardez le positif et comportez-vous en gentleman et en ladies pour les dames. Vraiment, c'est le petit message que je leur dis en tant que
vieux marocain. Le message est passé partout en France.
Et je les aime, les enfants, les jeunes, je les aime.
Absolument.
Allez.
Merci Khalid, merci à vous, merci d'être intervenu. Il a raison, c'est vrai, il faut que tout cela soit toujours dans un esprit de dignité et toujours positif. Tiens, quelques auditeurs avant de retrouver Pascal Boniface. 01 53 48 3000, je voudrais vous entendre partout en France. Venez peut-être livrer évidemment votre état d'esprit de ce matin. Morad, vous nous appelez de Creil, bonsoir Morad.
Oui, bonsoir Adil.
Bonsoir, bienvenue cher Morad, on vous écoute. Comment vous sentez ce matin, le match hier, comment vous l'avez vécu et puis...
vous savez, je vibre encore malgré qu'on est éliminé, entre guillemets, qu'il nous reste encore un match. On a vibré pendant 3 semaines, on a rêvé pendant 3 semaines. et je pense que dans 15-20 ans, on va se rappeler des 3 semaines qu'on a passées, quoi, je pense.
Oui. Et attendez, c'est pas fini pour le Maroc.
Oui. Mais c'est vrai que demi-finale, ça a été inattendu et on a fait rêver tout un continent, tout le Maghreb et tout le Maroc. Et c'est vrai que ouais, c'est extraordinaire, quoi. Et je suis content aussi pour la jeunesse marocaine. Je pense que ça va être des modèles. Et je pense que pour une fois, c'est pas pour une fois, mais très rarement, dans le monde, on a montré les pays du Maghreb autant, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, ouais, que ce soit en Asie, on a pour une fois montré quelque chose de positif au niveau du Maghreb, et je trouve ça extraordinaire.
Exactement, vous avez raison de le souligner. Morad, c'est aussi la victoire et la finale pour l'équipe de France. C'est aussi beau, ça aussi?
Oui, tout à fait, en tant que franco-marocain. Mais la France, en fait, je suis content aussi pour la France, mais en tant que franco-marocain, la France, elle a gagné, regagné. Voilà, ça aurait été une première fois pour le Maroc. Bien sûr, je serais content que le Maroc et la France gagnent dimanche. Mais c'est vrai que c'est juste parce que le Maroc, voilà, on pas l'habitude d'avoir tous ces moments de joie. La France, vous savez, en 24 ans, c'est leur 4e finale, vous imaginez. C'est inédit, c'est fantastique, quoi. Donc voilà, on commence à avoir l'habitude, on va dire.
Merci Morad, merci à vous d'être
intervenu. Merci beaucoup Adil, bonne soirée. Merci.
Bonne soirée. On va aller tiens, du côté du Mans, 01 53 48 3000. Continuez de nous appeler dans les informés. Je peux encore prendre quelques auditeurs, hein. Allez-y.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Il m'a devancé Anthony. On continue de vous prendre, 01 53 48 3000, avant de retrouver Pascal Boniface. Rachid Dumont, bonsoir Rachid.
Bonsoir.
Bienvenue, mon cher Rachid. Comment ça va?
Merci à vous. Je voulais rebondir par rapport au match, par rapport à l'équipe du Maroc.
Oui.
Et bravo la France.
Bravo la France, effectivement.
Bravo la France, effectivement. Et bravo, je suis marocain. Je suis fier d'être marocain et musulman et arabe. Je pense que cette Coupe du Monde, je pense qu'elle a réuni tout le monde.
Oui.
Je pense qu'il a baissé les tensions un petit peu au niveau du monde arabe, du monde d'Afrique. Et c'est très bien, ça donne un exemple. Et je suis fier qu'on est voilà, qu'on est à la Coupe du Monde, qu'on ait passé la demi-finale.
C'est vrai, c'est vrai.
Il n'y a pas de regret, il faut continuer. Et bravo à tout le monde, bravo au peuple algérien, bravo au peuple tunisien, tout ce qui est. Voilà. J'espère que la Coupe du Monde soit un angle pour tout le monde, en fait.
Absolument.
Absolument. Merci à vous.
Merci Rachid, merci d'être intervenu.
Merci.
01 53 48 3000. Allez, dégainez. Venez nous appeler pour nous raconter comment vous avez vécu un petit peu depuis ce matin, dans quel état d'esprit vous êtes. Je peux encore prendre un auditeur, Anthony? Oui, allez. Allez, allons-y, soyons fous. On prend encore quelques auditeurs, 01 53 48 3000. On a 2 minutes avant de retrouver Pascal Boniface, donc sans aucun problème, avec plaisir, venez donc ici. On parle de plus en plus de la finale face à l'Argentine. Ça aussi, on peut en parler, évidemment. Qui vous voyez comme vainqueur durant cette finale? Messi, hein, le choc, hein, Messi face à Mbappé. C'est beau, ça aussi. Magnifique. Allez, je vais prendre encore quelques auditeurs au 01 53 48 3000. C'est parti, je vais accueillir, tiens, Morad. Bonsoir, Morad. Morad. Mon cher Morad.
Oui.
Ah, bonsoir, Morad, vous nous appelez de quelle ville?
Saint-Etienne, exactement.
Saint-Etienne, Morad, on vous écoute, bienvenue.
Ouais, je suis pas marocain, mais je suis tunisien, mais franchement, bravo, ouais. bravo pour le Maroc.
Ouais, vous avez...
Bravo pour le Maroc. Aussi, bravo pour la France. Hein. Ouais, je suis pas non plus... franco-tunisien,
Tunisien, vous avez considéré qu'ils ont fait un parcours exceptionnel, les Marocains?
Franchement, ils ont fait un très 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 bon parcours, et franchement, vraiment, vraiment, bravo à Agragui.
Ouais.
Ça, c'est un modèle. Ouais. Franchement, ça, c'est un modèle de la réussite.
Ouais, c'est vrai, vous avez raison, c'est vrai, ça forge, si vous voulez, chez beaucoup de gens, oui, évidemment, comme un modèle d'exemplarité, de réussite, vous avez raison. Vous avez raison.
Ouais, franchement, bravo pour le Maroc, bravo pour les Marocains. En fait, la Coupe du Monde, moi autant que Tunisien, je sens que il est devenu, il revient au gros Maghreb, quoi. Même si c'est la France qu'en espérant bien que demain, que dimanche, Inch'Allah, elle gagne. Mais franchement, Bravo pour le Maroc.
Eh bien, merci, Mourad.
Bravo et encore bravo.
Merci, mon cher Mourad, d'être intervenu. Allez, je vais continuer.
Merci beaucoup.
0153 48 3000, continuez de nous appeler. 18h30 pour l'heure, on va lancer le Quoi de neuf avec Pascal Boniface qui va venir lui aussi nous parler de son billet d'humeur. France-Maroc, retour sur ce match. Et ensuite, je vous récupère au 0153 48 3000.
Les informés. Le Quoi de neuf.
Pascal Boniface, bonsoir.
Bonsoir Adil.
Le patron de l'Eris et le fondateur de l'Eris notamment. Alors, vous allez nous raconter comment vous avez vécu justement ce match France-Maroc. On vous écoute.
Beaucoup d'attention sur ce match, et c'était plus qu'un match en fait, parce que en fait on le sait bien, le football c'est plus que du football. Alors on a beaucoup parlé des relations entre la France et le Maroc à l'occasion de ce match, relations dont on sait qu'elles sont considérées comme étant traditionnellement bonnes, mais qui en réalité se sont dégradées dans la période récente, l'affaire Pegasus, les réductions du nombre de visas accordés par la France au Maroc sont venues jeter un petit peu un voile sur ces relations. Il y a une sorte de désenchantement des Marocains à l'égard de la France. Et puis, bon, les Marocains estiment que la France pourrait en faire plus sur l'affaire du Sahara, qu'elle compte trop sur l'Algérie, ce qui ne plaît pas trop. Mais ce match a quand même été l'occasion, justement, de dire les choses ne font pas si bien, il faut s'en occuper, il faut un peu relancer. Ce qui aurait été génial, c'est que le roi Mohamed VI vienne à Doha et qu'il y ait une sorte de sommet informel entre le président et le roi. Ça ne s'est pas fait, mais en même temps, on a quand même beaucoup parlé des relations. La France, le président est allé voir les joueurs marocains et ça a été l'occasion de nombreux commentaires sur l'amitié et sur le fait que beaucoup de joueurs du Maroc en fait avaient une double nationalité, que beaucoup de joueurs de Français venaient d'étrangers. Et ça me ramène à mon propos final, c'est que certains, comme toujours, se sont dit mais oui, tous ces gens-là qui sont contents de la qualification du Maroc et qui vivent en France, est-ce que ce sont des vrais Français ? Et donc, à chaque fois qu'il y a un match de l'équipe de France contre une équipe du Maghreb, on se pose la question. On ne se pose jamais la question quand c'est France-Portugal ou France-Espagne. Alors que les Français d'origine portugaise, les Français d'origine espagnole soutiennent majoritairement le pays de leurs origines parce qu'ils vivent en France et que, justement, peut-être qu'ils vivraient en Espagne, ils ne le feraient pas. Mais là, ils soutiennent. Et donc, c'est bien sûr à chaque fois par rapport au Maroc, à la Tunisie, à l'Algérie qu'on se pose ce problème.
Mais bien sûr,
ce qu'on a vu, c'est en fait la fraternité. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait plein de gens qui avaient soit le drapeau du Maroc, soit le drapeau de la France, qui ont regardé les matchs ensemble, qui ne se sont pas affrontés, mais qui ont commémoré, qui ont communié ensemble. Si le Maroc avait gagné, la plupart des Français, j'aurais été le premier d'entre eux, auraient soutenu le Maroc en finale. Exact. La France a gagné, je suis à peu près persuadé que la très grande majorité des Marocains vont soutenir la France.
Mais oui, la très grande majorité, c'est bien de le souligner. Avant de vous laisser partir, justement, je voudrais rappeler, parce que c'est aussi la période des fêtes, et vous avez fait une BD exceptionnelle, remarquable. D'ailleurs, j'invite tous nos auditeurs à aller se la procurer, parce que c'est un beau cadeau. C'est géostratégique, ça. Vous pouvez nous en toucher quelques mots, mon cher Pascal Boniface.
C'est l'histoire des relations internationales en bande dessinée. Je suis tombé sur un illustrateur, ça, c'est bon, ouais. Tommy, qui est vraiment génial, qui a apporté beaucoup d'humour en plus à mon texte. Et donc c'est vrai que cette bande-ci marche très bien parce que c'est vraiment le type même de cadeau utile que le tonton glisse sous le sapin ou que mamie ou papy glisse sous le sapin parce que, en fait, on apprend en s'amusant.
Chers amis auditeurs, partout en France, si vous nous écoutez, c'est un beau cadeau ça. Géostratégix de Pascal Boniface. Allez vous le procurer, allez l'acheter, allez l'offrir, allez pour l'offrir même pour vous-même, allez l'offrir à c'est le moment, c'est la période des fêtes, allez-y sans réfléchir parce que c'est la période, n'est-ce pas mon cher Pascal Boniface?
Ah oui, Adi, merci de tout, ça me fait chaud au cœur, merci de ces compliments, de cette envie de lire. Et effectivement, c'est le but, c'est apprendre en s'amusant et puis voilà, en parler un peu autour de soi, etc. Et en fait, la géopolitique, ça peut être très simple.
Exactement. Merci, à la semaine prochaine, sans faute.
Avec plaisir.
Avec plaisir partagé, 18h34. Nous allons marquer une courte page pub et on se retrouve avec Nora du 93, Ouda, Samy, Noura du Mans. Oh là là, que de beau monde. Le standard explose dans tous les sens, mais c'est une très bonne chose. Comme chaque soir, vous le savez, quel bonheur de vous... Parce que, au fait, ce qui nous fait vivre ici... Hein, quand on est en, voilà, quand on exalte nous aussi à notre manière, c'est vous les auditeurs. Voilà. Allez, pub et on se retrouve après.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
18h42 précisément, si vous venez de le retrouver, sachez-le, bienvenue à vous. Avant de retrouver le face-à-face, nous allons accueillir, eh bien, chers amis auditeurs, tous celles et ceux qui veulent continuer de commenter l'après-match. Nora du 93, bonsoir Nora, bonsoir, bonsoir. Quelle ville du 93?
Bonsoir, bonsoir les auditeurs.
Quelle ville du 93?
Pardon?
Quelle ville du 93 précisément?
Le Blanc-Ménil.
Blanc-Ménil, bienvenue Nora, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Dites-nous tout.
Bah écoutez, c'était donc avant toute chose, c'est dire que je suis franco-algérienne.
Oui.
Donc, mais hier j'étais marocaine à 2000%. En général, hein, on est toujours pour la France, mais cette fois-ci, honnêtement, toute la famille, on était pour le Maroc. Comme il a dit votre auditeur précédent,
oui.
Non pas qu'on était contre la France, mais c'est tellement exceptionnel qu'ils arrivent à ce niveau-là. Et ils représentaient le Maghreb, ils représentaient l'Afrique, etc. Donc on ne pouvait être qu'avec eux. Il faut dire qu'ils ont été extraordinaires. Ils ont mouillé le maillot, ils ont fait le maximum. On est très très fiers d'eux. Donc les Algériens étaient avec eux. Et puis on leur souhaite... La petite finale, le petit truc, là, juste après avec la Croatie, espérons qu'ils vont gagner.
Pour disputer la troisième place. Merci Nora, voilà. Effectivement, merci. On voit bien que vous avez été emportée, là, c'est bien.
Ah oui, c'était vraiment quelque chose.
Autre voix féminine, Ouda du 92. Quelle ville du 92, ma chère Ouda? Bonsoir Ouda. Ouda? Vous êtes avec moi? Elle n'est pas là, Ouda. Allez, au revoir, Ouda. Bonsoir, Noura. Noura du Mans. Bonsoir, Noura.
Bonsoir.
Bienvenue.
Merci.
Ouda, je suis désolé, elle n'était pas là. Elle était pas là, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'y dit pas rien, moi. Faut dégainer, comme on dit. Non, mais peut-être qu'elle faisait autre chose. Noura, qu'est-ce qui vous fait rire, Noura?
Ben, en fait, parce que j'attendais, j'ai entendu que vous étiez en train de parler à une autre Noura, du 95. J'ai cru que c'est moi.
Ouda.
Alors, moi, c'est Noura.
Noura, je sais que c'est Noura. Bienvenue, Noura, on vous écoute.
D'accord. Ben, je vous remercie, en fait, d'avoir nous laissé, en fait, l'occasion de s'exprimer devant les auditeurs de Beurre FM.
C'est marrant, vous souriez, elle parle en même temps, elle sourit, on ne sait pas.
Ben, je suis.
C'est génial. Ah, Noura, c'est génial.
Ben, en fait, j'en profite pour exprimer ma joie. Ben, je suis marocaine.
Oui.
J'habite au Mans. Et en fait, j'ai bien suivi tous les matchs du Maroc. Et je tiens vraiment à féliciter l'équipe marocaine, les Lions d'Atlas et toute l'équipe carrément. Ils ont fait un superbe show, une démonstration qui montre leur niveau qui est très, très, très élevé et professionnel. Je leur remercie vraiment de nous avoir suivre ça et vivre aussi cette joie. Notamment Walid Regragui, Hakimi, Ziyech et en fait toute l'équipe et surtout les jeunes en fait qui sont made in Morocco à 100%. En fait, et qu'ils ont vraiment pu démontrer à tout le monde que le Maroc est capable en fait de mettre en place en fait des joueurs en fait qui vont confronter des joueurs professionnels avec un historique bien bien connu.
Eh ben merci Nora, merci. On voit que vous êtes heureuse, hein.
Oui.
Eh ben, continuez d'être heureuse. C'est bien. Il faut être heureux dans la vie. C'est que du bon. Merci Nora.
Merci beaucoup. Merci.
Allez Samy, bonjour Samy de Paris. Bonsoir Samy. Samy est avec nous une fois. Attention Samy de Paris, est-ce que vous êtes encore là?
Oui, bonsoir Samy. Adil.
Bonsoir mon
Comment
cher Samy.
Va?
Très très bien.
Super.
On vous écoute.
Ça se passe.
Bah oui, très bien.
Moi, je souhaite, pareil, féliciter les Marocains pour leur incroyable parcours. Ils nous ont fait vibrer pendant toute cette Coupe du Monde. Franchement, c'est magnifique ce qu'ils ont fait. En plus, j'ai aimé la façon dont ils l'ont fait. Ils l'ont fait avec beaucoup de classe, avec les tripes, avec du jeu, beaucoup de beaux jeux. C'est pas un hasard. Hein. De toute façon, on ne peut pas éliminer trois grosses équipes comme ça par hasard. Hein. La première, ça peut l'être. La deuxième ou la troisième, on se pose la question. Donc vraiment, ils ont prouvé au monde entier que les Africains ont leur place désormais en Coupe du Monde. Donc ça, c'est magnifique. Et j'ai un deuxième point, Adil.
Oui, allez-y, Samy.
Sans aucune animosité, hein, je tiens à le signaler, c'est que moi, je suis algérien d'origine kabyle et je me sens, je me sens pas concerné par tous les auditeurs, la plupart des auditeurs qui appellent et qui... qui dédient cela, ils disent, enfin la plupart ils disent on a dédié à tous les Arabes en priorité. Et je veux juste leur dire s'ils peuvent inclure les Amazirs aussi, on fait partie de l'Afrique, ça serait cool.
Mais je pense que on l'aura compris, Samy, on l'aura compris. Quand ils parlent du monde arabe, en fait ils englobent y compris les Amazirs. Vous le savez, là vous titillez
un peu. Non, les mots ont un sens et malheureusement, non.
Ça... Moi, je le comprends comme ça. La vérité, c'est que quand je vois toute cette joie exprimée par nos auditeurs,
non,
quand
ils font référence, c'est dans la bonne humeur,
quand, écoutez-moi, hein, Samy, quand ils font référence à l'Afrique, quand ils font référence au monde arabe, je pense qu'ils, quand ils font référence notamment à l'Afrique, d'abord l'Afrique, c'est aussi le Maghreb, donc ça englobe tout, les Amazirs, les Arabes, les ceci, les cela, les, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense.
J'ai pas entendu un seul auditeur dire les Amazirs pour l'instant. Ils disent les Arabes.
Et oui, mais il y a.
Quelque peu exclu, on va dire. Quoi.
Non, mais bon, moi, je le vis pas comme ça, remarque, vraiment. Moi, je le vis plutôt, au contraire. Quand il parle du monde arabe, il parle aussi, y compris du peuple amazir. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu aussi comme ça, puisque la majorité, beaucoup de nos auditeurs aussi, sont originaires de la Kabylie aussi. Hein.
Exactement. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement. Quand vous dites vous allez aux Arabes, vous dites nous les Arabes vous allez au Moyen-Orient et ils vous reconnaissent pas comme Arabes.
Ouais.
Quand vous venez de l'Afrique du Nord, ils vous disent plus d'une fois à chaque occasion ils nous l'ont rappelé qu'on n'est pas des Arabes. Je comprends pas pourquoi on s'entête à dire on est arabisé, islamisé avec plaisir. Mais bon, on va pas refaire l'histoire.
Ouais.
C'est juste que
c'est la même manière quand certains auditeurs par exemple parlent des Marocains, ils disent les Maghrébins ou ils disent les Arabes du Maroc, et ils ne parlent pas des Amazirs. Hein. Et pourtant, le Maroc, c'est combien de pourcentage? 80% de Amazirs. Vous imaginez?
Il n'y a pas d'Arabes en Afrique du Nord.
Bon, c'est un autre débat. De toute façon, je n'ai pas envie de lancer ce débat-là parce que sinon, vous allez me retrouver avec plein d'Arabes. Non, ce n'est pas ça, Samy. Sinon, les auditeurs vont se ruer et on va lancer un débat parce que je ne peux pas lancer ce débat-là. Je ne peux pas. Restons sur le foot.
Non, c'est plus d'histoire. Okay,
c'est pas une question plus d'histoire. Ah non, mais au contraire. Moi, je suis ouvert à tous les sujets, tous les débats. Si vous voulez même, on peut mettre ça la semaine prochaine. On peut en parler. Tiens,
c'est magnifique.
Il y a aucun souci. Moi, j'ai aucun problème d'ailleurs. Sujet. Aucun souci avec ça.
Parce que on dirait qu'ils ont ils ont honte de dire. Je sais pas. Moi,
ils ont pas honte. Je ne crois pas. On abordera le sujet, Samy. Chose promise.
Il faut être algérien, marocain et tunisien et soyez fiers de l'être.
Merci Samy,
voilà.
Vous avez bien raison.
Je veux passer comme message.
18h, voilà. Merci Samy, prenez soin de vous.
Bonne soirée, merci.
18h49, le face-à-face.
Les informés. Le face-à-face.
Le face-à-face avec Jean-Pierre Colombiès, ancien commandant de la police, mais également aujourd'hui comédien, mes auteurs. Bonsoir mon cher Jean-Pierre Colombiès.
Bonsoir Adil.
Comment ça va?
Ça va fraîchement, mais ça
fraîchement,
va bien. Oui.
Absolument. En face de vous, vous avez un ancien élu, mais également aujourd'hui consultant en numérique. Il s'appelle Ménad Ouchenir. Bonsoir Ménad.
Bonsoir Adil.
Comment
bonsoir,
ça va?
Ça va très bien, merci et vous?
Super, merci. On va continuer de parler de foot, de cette Coupe du Monde, mais avec un autre angle. L'angle, c'est lui de, vous savez quoi? Eh bien, de tous ses proches de l'ultra-droite qui ont été interpellés un peu partout en France d'ailleurs. Des arrestations de militants de l'extrême droite qui voulaient, vous savez quoi, en découdre avec les supporters marocains. Ils sont venus armés, quand je dis, avec des bâtons, etc. Bref, je ne vais pas tout décrire, mais ça va de Paris à Lyon, Nice, Montpellier. On a échappé au pire, Jean-Pierre Colombiès, vous, ancien commandant de la police, là.
Je pense
que. Parce que c'était quand même une expédition punitive, là, de l'ultra-droite.
On a assisté à un préambule.
D'accord.
Très rapidement, juste, bon, bravo, puisque je ne l'ai pas fait, vous ne m'avez pas laissé m'exprimer.
Je vous en prie.
Bravo à la prestation du Maroc. Hier, ils nous ont fait peur. Moi, je n'ai pas assisté serein au match. J'ai vu des combattants. J'ai pas nécessairement vu des joueurs de foot, d'ailleurs. J'ai vu quand même des gens qui s'accrochaient, qui ont accroché la pelouse, qui ont mouillé le maillot, et des combattants. Moi, j'ai été conçu au Maroc, je suis né en Algérie, donc quelque part, j'ai grandi en France, donc je me sens un petit peu.
Maghrébin.
C'est pas le mot que j'emploierais, je suis pas. Donc, je dirais simplement que, émotionnellement, j'ai beaucoup de sympathie aussi pour le Maroc, puisque ma famille a vécu très longtemps là-bas. Donc voilà, c'est ce que je voulais préciser, parce que véritablement, ça a été un grand match hier soir, un grand match. Et la seule chose que je terminerai par là, il reste une troisième place à aller chercher. Alors s'il y a un message à leur adresser, c'est continuer à vous accrocher comme ça, parce que la Croatie, c'est un gros morceau aussi.
Exactement.
Quant à l'ultra-droite.
Oui.
Quant à l'ultra-droite, eh ben moi j'ai envie de vous dire que ça me surprend même que ce soit arrivé si tard.
Parce que vous l'aviez écrit, vous, dans votre livre.
Je l'ai prédit, oui, rappelez j'ai écrit, livre. J'ai souvent dit, bon, j'ai écrit dans 34 polices déconnexion, où j'explique, parce que je l'ai vécu de l'intérieur, j'ai vécu le désengagement de l'État dans bien des quartiers, le désengagement de l'État même en termes de philosophie. On a connu jusque-là une forme de philosophie de gouvernance avec qui était l'héritage de Gaulle. Hein. Le véritable de Gaulle, c'est celui-là. Hein. C'est un État protecteur, c'est un État qui assure sa présence et qui est visible partout. Dès lors que vous désengagez cet État, et ça a commencé bien avant Macron, hein, ce phénomène de désengagement, ça a commencé même sous la gauche, puisque la gauche n'a absolument...
Mais là, on a échappé au pire quand même avec ce oui, mouvement extrémiste.
Mais je vous l'annonce, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer parce que, comme je l'ai écrit, je le dis, la nature a horreur du vide, a dit.
Ouais, et c'est militant de l'extrême droite.
Oui.
Oui, mais bon,
il n'y aura pas que l'extrême droite. Ce à quoi on a assisté à Dijon, rappelez-vous.
Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire par là?
Qu'on va assister à une opposition des communautés. On va vers un État qui va un petit peu ressembler aux
États-Unis. Qu'est-ce
qui
vous fait dire ça?
C'est-à-dire que Macron et ses prédécesseurs, Sarko, Hollande et même Chirac d'une certaine manière, regardent la société américaine avec des yeux de chimène quelque part. Donc ça signifie concrètement sur le terrain qu'on désengage l'État. Et ça passe par l'État sécuritaire notamment. Et à partir du moment où on a des secteurs entiers, des pans entiers de la société qui n'ont plus de vision, de visibilité de ce qu'est l'État, les communautés vont prendre le relais. On l'a vu à Dijon, opposition de la communauté tchétchène avec la communauté arabe de certains quartiers. Il a fallu que tout ça se règle à la mosquée locale parce que les deux communautés sont musulmanes, ce qui est pour moi une aberration totale puisqu'il aurait fallu que tout ça se règle en préfecture. Ça, petite parenthèse que j'ouvre et que je ferme tout de suite. Mais à partir du moment où on chauffe à blanc, on laisse chauffer à blanc les opinions des uns et des autres, on a le risque, à un moment donné, de voir des confrontations.
On continue d'en parler, justement. On continue d'en parler, il faut juste que je lance la pub.
C'est très court. Avec les armes, il faut en parler.
Bon, on va en parler, bien sûr, sans aucun problème. Et je donnerai la parole aussi à Mélade Duchesnière, concernant cette question, évidemment, extrêmement importante. Marquons une courte pause, on se retrouve dans une, là à peine, une trente.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
18h56 précisément, et c'est avec Mélade Duchesnière, mais également avec Jean-Pierre Colombier. Avant de parler de ces armes, justement, je voudrais entendre Mélade Duchesnière sur la question sur ce sujet ultra-droite, des militants d'extrême droite qui, justement, voulaient en découdre avec les supporters marocains hier, un peu partout d'ailleurs, dans les principales villes de France. Peut-on s'inquiéter?
Ce que je dirais, Adil, c'est pour l'extrême droite, encore raté. C'est-à-dire qu'ils souhaitaient hier, effectivement, déclencher un peu partout en France des affrontements avec les supporters marocains. Tout ce qu'ils ont trouvé en phase 2, c'est des supporters français et marocains. Ils ont trouvé de l'amour, si j'ose dire. C'est clairement, c'est un peu poétique de le dire comme ça, le remède à ce genre d'action.
Et surtout des interpellations. C'est que la police a été efficace aussi.
Oui, un peu d'amour et beaucoup de répression. C'est plutôt, tant mieux d'ailleurs que ce soit dans ces proportions-là qu'on traite l'extrême droite et l'ultra-droite plus exactement ici. Ces gens-là n'arrêtent pas de perdre ces derniers temps. Si on peut remonter à Zemmour et puis tout ce qui s'est passé un peu avant et ce qui s'est passé un peu après, effectivement, ils n'arrivent pas à installer le climat de violence qui est leur fond de commerce. La violence de l'extrême droite.
Vous êtes d'accord avec Jean-Pierre Colombier, quand il dit qu'effectivement on s'oriente vers de plus en plus une guerre civile?
Alors, je ne suis pas entièrement d'accord avec effectivement, il n'a pas dit guerre civile, mais avec le fait qu'on aille.
Il parle d'une confrontation
vers,
entre communautés.
Une violence structurelle.
Qu'est-ce qu'on doit comprendre?
Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y en a beaucoup à qui ça ferait énormément plaisir, dont c'est le fond de commerce. Hein. On parlait de Zemmour qui a encore fait des magnifiques sorties, si j'ose dire, magnifiques entre guillemets, sur le nombre et la couleur de peau des joueurs de l'équipe de France. Il y a des gens dont c'est le fond de commerce, la violence et cette violence-là, et qui aimeraient, qui adoreraient avoir des affrontements et des guerres civiles, en l'occurrence ici, une forme de libanisation de la société française, et comme ça, eux en tireraient leur épingle du jeu, politiquement, financièrement, idéologiquement, pour peu qu'il y ait encore un peu d'idéologie là-dedans, mais à mon sens, je pense que les Français sont de moins en moins dupes, s'ils l'ont déjà été un jour, et de moins en moins bêtes, et y compris les Français d'origine maghrébine ou autre, puisque tout le monde voit très bien maintenant, et ça se voit de plus en plus, heureusement il y a aussi des bons côtés d'Internet et des bons côtés de l'information, que ces gens-là cherchent à monter les gens les uns contre les autres, et ça ne donne rien de bon. Et malheureusement, il y a plein d'exemples à l'étranger qui nous le prouvent. Moi, j'ai plutôt un discours un tout petit peu plus optimiste que celui de Jean-Pierre, qui est de dire, il y en a à qui ça ferait plaisir, ils rament dans ce sens-là, mais il y en a beaucoup plus, tout cas pour l'instant, espérons que ça continue, qui rame dans l'autre sens, c'est-à-dire vers celui d'une forme de fraternité ou même de pragmatisme. Hein, on ne fait pas d'angélisme. Voilà.
Oui, Jean-Pierre Colombiès.
Le problème, c'est qu'il y a plusieurs choses qui concourent à l'entretien de la violence.
Oui.
Déjà, entre les deux matchs, enfin du moins entre les deux périodes, la semaine qui a précédé le match, on a assisté, mais en boucle, dans les médias, un discours qui prévoyait des violences de l'ultra-violence.
Dans certains médias.
Dans certains médias, oui, mais on les écoute beaucoup, c'est parmi les médias les plus écoutés. Donc, on a aussi des médias qui chauffent à blanc l'opinion publique, et ça, c'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux. Il faudrait arriver quand même à arrêter de stigmatiser les communautés les unes face aux
autres.
Absolument,
mais ça, c'est l'interdépendance. Les gens regardent ces médias aussi, quand ils chauffent.
Mais c'est aussi...
Alors, après, il y a aussi une question peut-être un peu plus peut-être philosophique, voire psychologique, de dire pourquoi les gens sont attirés par les produits d'actualité. J'appelle pas ça de l'information, j'appelle ça des produits d'actualité.
Oui, oui, parce que c'est vendeur.
Qui font appel à l'émotion parce que vendeur, ouais. On monétise l'audience.
Mais
là, c'est plus la question de l'éducation à l'information qui se pose que la question de chauffer l'opinion sur des bêtises. D'ailleurs, les violences étaient, si on a eu, elles sont très marginales. Et pour le coup, on a 99% de joie et de liesse.
Il y a un sujet sur que vous avez lâché les mots.
Deux secondes.
Oui, allez-y.
Sur les armes.
Parce que justement, je parle de ces ultra-droites qui ont été, eux, arrêtés lors d'un contrôle avec des groupements. Justement avec des armes prohibées.
Mais des armes, c'est quoi les armes? C'est pas des armes de quatrième catégorie,
non.
Ou des fusils de chasse.
Mais port d'armes prohibées, en tout cas. Voilà.
Batte de baseball ou barre de fer, ce qu'on appelle des armes par destination. Mais il y a plus grave. Il y a plus grave, c'est qu'on sait aujourd'hui que beaucoup d'armes, là on a assisté, ça vous a pas échappé, on a montré ça dans les caméras, beaucoup de gens ramènent leurs vieilles armes.
Les vieux fusils du papy.
Voilà, les vieux fusils, les machins, voilà. Tout ça. Par contre, il y a ce qu'on ne dit pas. Ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a beaucoup d'inscriptions dans les clubs de tir en ce moment. Beaucoup. Plus qu'il n'y en a jamais eu. Et pourquoi ?
De source officielle.
Oui, mais pourquoi ? Mais parce qu'on n'arrête pas dans les médias à faire peur à l'opinion publique. Et ça, c'est cette notion de peur, je l'ai aussi dénoncé ici, sur ce plateau, en expliquant que la communication, globalement, quel qu'il soit, de quel bord qu'elle soit, travaille sur à la fois l'émotion, la confusion et le...
Vous voulez nous dire qu'ils veulent faire justice soi-même ?
Mais bien sûr.
Oui.
Mais ça aussi, c'est assez naturel. Vous avez un désaveu total de l'opinion publique, des gens tels qu'ils sont, contre la justice, vis-à-vis de la justice et de ses représentants. Parce qu'il y a à la fois une incompréhension et surtout une incapacité politique à résoudre ce problème. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de places de prison, par exemple. Et puis qu'on est depuis des années et des années dans la politique de l'excuse.
Ménade.
Ce qui fait que le délinquant, la caricature du délinquant, apparaît comme quelqu'un qui est dans l'impunité. Et donc les gens s'imaginent qu'ils n'ont plus que d'autres ressources que de se défendre eux-mêmes.
Ménade.
Et ça commence déjà.
Simplement, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont d'autres ressources que de se défendre eux-mêmes, mais ces mêmes gens, quand ils sont confrontés à certaines difficultés, ils commencent, le premier geste, c'est d'appeler la police ou éventuellement de
quand il en reste.
Quand il en reste, sans doute, mais en tout cas, ils l'appellent après qu'elle intervienne ou pas, c'est la question. Vous l'avez bien dit, quelque part, c'est aussi à l'opinion publique d'être moins bête. Pardon de le dire aussi
brutalement là.
aussi brutalement. Mais on vous montre des images, à la télé d'un petit petite torche qui brûle dans un coin d'une rue, dans une ville quelque part, et on vous dit que c'est dans toute la France et les gens tombent dans le panneau. Donc à un moment,
ça s'appelle la propagande.
Absolument. Il y a aussi on est quand même au 21e siècle. On a quand même la capacité, ce qui n'était pas le cas il y a encore 20, 30, 50 ans. Hein. Donc s'éduquer à l'information, comparer l'information. Donc il y a un moment aussi à aller chercher un peu d'éducation. C'est-à-dire, moi, j'ai pas conduit ma voiture avant d'avoir mon permis. Il y a plein de choses qu'on peut pas tirer sans avoir.
Mais il y a
un moment. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, on pourra pas sortir de là si on mise pas un minimum sur l'intelligence et l'éducation. C'est compliqué.
Non, mais ça, j'y crois pas du
tout.
Tout simplement parce que
là, ça veut dire qu'on n'en sortira pas.
Vous êtes en train de nous dire.
Ça signifie qu'il faut faire un effort largement supérieur à ce que nous connaissons aujourd'hui pour éduquer les gens. Or, le problème, c'est que nous assistons aujourd'hui à une explosion de la cellule familiale qui n'éduque plus, parce que je suis désolé, mais l'éducation de base, c'est à la famille que ça revient. Parce que l'école n'est pas là pour éduquer, elle est là pour enseigner, pour apprendre. Or, on la détruit, ces deux schémas d'éducation. Et c'est catastrophique, parce qu'il y a 30 à 40 ans, mais il n'y avait pas les chaînes d'infos en continu, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas cette compétition un peu à la folie médiatique. Et je rappelle quand même que, là on parle de l'extrémisme de droite, mais il y a un extrémisme de gauche qui fait florès depuis des années. Je rappelle quand même que même Sandrine Rousseau, qui est d'une écolo, soi-disant tolérante appelle à la politique de combat et à la radicalité politique. Ça veut dire quoi, ça, concrètement, les mots? L'auditeur l'a dit,
Sandrine,
des mots de
Rousseau,
sens.
Non, mais y a pas qu'elle. On l'a vu, c'est la porte-parole d'elle-même.
Il n'y a pas qu'elle.
Non, mais sans doute. Mais c'est
alors, on va parler de Sandrine Rousseau, justement, dans une poignée de minutes. Je veux juste, est-ce qu'on peut s'inquiéter, justement, de ces militants d'extrême droite? Est-ce qu'on s'oriente de plus en plus vers ce que vous avez fait tout à l'heure, c'est-à-dire?
Adil, il faut s'inquiéter de l'explosion de notre schéma social, de notre contrat social. Pour employer un mot rousseauiste, notre contrat social est en train d'exploser sous nos yeux. Si on n'a pas, je dirais, une prise en compte par l'État, par le gouvernement actuel, Macron en tête, sur l'urgence qu'il y a à rétablir un peu, je dirais, la justice dans sa noblesse de terme, on va à la catastrophe. Je vous le dis.
Vous dites
il y a
quoi,
des quartiers
ménade
entiers qui nous échappent, des secteurs vous entiers, dites, des villes entières qui nous échappent.
J'en dis qu'effectivement, moi, je m'inquiéterais si la justice ne faisait pas son travail vis-à-vis de ces gens, notamment ceux qui ont été interpellés hier, mais de manière générale, tous les ultras de gauche ou de droite, je rejoins M. Jean-Pierre, il n'y a pas que l'ultra-droite dans la vie. Donc, je m'en remets à la justice, et effectivement, là, et c'est le citoyen qui parle, de s'en mettre aux institutions, et ces institutions, effectivement, à ne pas négliger, à ne pas laisser se déliter, et finalement, leur faire retrouver leur densité, leur solidité perdue, ou en tout cas, qui s'est fait depuis quelques années.
Je l'ai demandé si plusieurs fois, je réitère ma demande auprès d'Adil, de faire un débat spécifique sur la problématique sécuritaire dans ce pays, police-justice, qui aujourd'hui, je l'ai dit, je le répète, dans d'autres lieux, je me cache pas, mon discours est le même. La police perd des effectifs, on supprime des commissariats dans des grandes villes, et la justice n'a plus les moyens de faire son boulot. Pourquoi?
Les sujets sont là.
Pourquoi? Pour deux problèmes.
On en parlera.
Un, judiciarisation de la société, parce que tout le monde va au commissariat. Absolument. Pour un oui et pour un non. Et deux, statu quo des effectifs. Absolument. Qui sont noyés.
On va préparer ça ensemble.
Absolument.
Et quand vous voulez, très cher Adil.
Eh bien, écoutez, c'est noté pour nos auditeurs, justement.
Si les auditeurs le valident.
Oui, les auditeurs, vous savez, ils valident. Après, ils sont
police,
aussi.
Justice.
Ils sont aussi.
C'est un vrai débat qui nécessite plus de 30 secondes
d'expérience. De proposition. Allez, messieurs, second sujet qui retenu notre attention, vous savez, c'est Sandrine Rousseau. Vous avez fait référence à elle justement tout à l'heure. Elle sort en pleine interview à un violentomètre pour dénoncer la défense des Katniss. Écoutez, je veux juste regarder.
Quoi, un violentomètre?
Écoutez. Extrait.
En interview, moi j'ai quand même entendu d'autres mots qui me font dire que il y avait quand même un climat de violence.
Vous pensez à quoi?
Eh bien, d'ailleurs, j'ai amené le violentomètre, qui est quelque chose que j'invite vraiment tout le monde à consulter. C'est une échelle qui a été faite par le Centre Hubertine Auclair, qui a été soutenue par diverses collectivités, et qui montre en fait la toxicité que peut avoir une relation et le degré de violence dans lequel nous sommes. Et par exemple, quand il y a être jaloux en permanence, vérifier les textos dans le téléphone et mettre une gifle, et ben vous voyez qu'on est déjà dans la zone rouge de la violence.
Quand le jour même, on a une condamnation.
Chez nos confrères de LCI, non mais attendez, comment on peut réagir violentomètre?
Quand c'est Sandrine Rousseau, je suis désolé, je peux pas m'empêcher d'avoir un sourire cynique, parce que ce qu'elle décrit là, la consultation des SMS, l'espionnage à l'intérieur du couple, je sais qu'elle fait référence uniquement aux hommes, hein, parce qu'elle est obsédée par le mâle dominant, mais je connais beaucoup de femmes qui le font, d'accord, et certaines aussi mettent des gifles, par exemple, quand elles sont très en colère parce qu'elles trouvent des SMS qui ne leur plaît pas.
Et c'est l'ancien commandant de la police qui le dit, donc vous savez de quoi vous parlez.
C'est l'ancien commandant de la police qui le vit, qui l'a vécu dans le traitement de ces dossiers. Moi, je suis pas dans la légende, je suis pas dans le à peu près. Il y a des hommes qui ont été victimes de femmes particulières, avec des caractères particulièrement agressifs, d'accord. Alors, à un moment donné, faut arrêter de donner, d'ailleurs, une fois de plus, je considère qu'on donne beaucoup trop d'audience à cette femme qui dit à peu près tout et n'importe quoi, et qui, en fonction de c'est pas elle, c'est pas la girouette qui change de sens, c'est le vent qui tourne. Au bout d'un moment, faut arrêter de dire n'importe quoi, surtout quand c'est motivé par la haine de l'homme. C'est ça, moi, qui me gêne. C'est pas qu'elle soit contre les violences faites aux femmes, bien évidemment. Moi, le premier, j'ai traité des dossiers qui étaient en rapport avec ça. Viol, agression sexuelle, violences faites aux femmes. Je les ai traités. Je me suis pas contenté d'en parler. Moi, j'ai eu des victimes face à moi, d'accord? Et j'ai eu aussi des fausses victimes. J'ai eu aussi des gens qui manipulaient des femmes, qui manipulaient la justice pour obtenir, par exemple, un paiement de pension alimentaire, qui n'arrivait pas. Ou avoir une garde d'enfant que la justice n'ordonnait pas assez vite. Donc ça, faut le savoir. Alors, quand j'entends Sandrine Rousseau, on sent qu'elle a, je sais pas, elle a eu un problème dans sa petite enfance, je suppose. Enfin, c'est pas moi qui peux répondre à ça.
Elle a subi effectivement des viols, enfin, en tout cas des abus dans le cadre de ses fonctions politiques.
Mais ça justifie quand même pas que
ce qu'elle dit sur les violentomètres, justement. Alors, vous dites quoi? Et puis sur l'affaire Katniss, notamment, parce qu'il faut qu'on parle aussi d'Adrien Katniss. Certains spécialistes en communication politique considèrent qu'il se défend très mal et qu'au contraire, il s'enfonce et sa position ne l'aide pas forcément.
Alors, bon, moi, pour Adrien Quatennens, c'est très simple. Il a franchi la ligne jaune. Pour moi, il ne devrait pas rester en fonction. Maintenant, c'est que.
Il revient en janvier prochain.
Oui, oui, mais il veut revenir, il revient. Mais en politique, la base.
Il se met en retrait de LFI, de la NUPES, quoi.
Oui, sans doute. Ouais. Mais
il reste député quand même.
Il y a quand même, pour moi, en politique, un sujet qui sont les idées, les opinions, ce qui devrait être normalement la base de tout combat. Demain, il y a une loi sur les violences conjugales. Même s'il vote, effectivement, pour, etc., des bonnes dispositions, le gars est quand même. Voilà, il a démissionné le jour où il a mis la première gifle pour moi. Donc, voilà pour Adrien Quatennens, c'est mon humble avis. Quoi, il est plus en capacité d'exercer. Il peut trouver autre chose à faire dans la vie que député. Surtout si LFI, il est en retrait de LFI. Le violentomètre, je savais pas ce que c'était. Moi, je suis allé voir, j'ai découvert cet instrument, effectivement, qui peut être très utile pour qualifier parfois certaines relations et puis essayer pour certaines femmes, parce que c'est pas toujours évident, ou même certains hommes dans les relations de couple et qui sont instables, de mettre des mots et de savoir où est-ce qu'on se situe sur ce barème-là. Mais effectivement, là où je rejoins Jean-Pierre, c'est que quand Sandrine Rousseau vous sort ça, c'est à peu près sûr que c'est pas forcément pour le combat ou la cause qu'elle dit défendre, puisqu'on connaît, on a malheureusement trop parlé de Sandrine Rousseau, y compris sur ce plateau, c'est de dire que cette femme-là a une haine des hommes parce qu'il lui est arrivé quelque chose d'assez de très traumatisant auparavant, et quelque part elle fait de nous ses victimes indirectes de ce qui lui est collatéral, de ce qui lui est arrivé. Puisque ni le combat de l'écologie, ni le combat du féminisme, ni le combat en gros du progrès social ne bénéficient des interventions de Sandrine Rousseau.
Certainement, au contraire, j'ai envie de dire.
Montrez-moi une cause que Sandrine Rousseau a fait avancer avec son attitude et ses prises de position.
Non, mais c'est même stigmatisant.
Restons sur l'affaire aussi Quatennens.
Alors Quatennens, on va être très clair, il est député, donc il est élu. Vous m'accorderez que jusque-là, je ne me trompe pas beaucoup.
Oui.
Un député ne peut pas être viré, d'accord ? Il ne peut que démissionner.
Absolument.
Donc c'est un problème entre lui et sa conscience politique, s'entend. Après, sa conscience personnelle, sa conscience morale, il a déjà assumé puisqu'il a reconnu et qu'il vient d'être condamné.
Ah, c'est tout à son honneur d'avoir reconnu. Ah, non, mais il n'est pas dans le déni.
Moi, je dirais rien de tout. Par contre, ce que disais, on en a discuté tous les deux hors plateau. Moi, ce que je ne supporte pas, c'est les gens qui font la morale, alors qu'eux-mêmes ont un travers, d'accord? Et il n'a pas été le dernier pour expliquer que la gifle ou la main courante était le premier pas vers des violences beaucoup plus graves. Bon, si on est fidèle un peu à son destin politique, à sa propre parole, on en tire des conséquences. Concrètement, si j'étais lui, c'est même pas chez les non-alignés que je m'inscrirais, mais c'est plutôt vers une démission pure et simple. S'il veut une légitimité, une vraie légitimité politique, il démissionne et il se représente devant les électeurs. Entre parenthèses, c'est exactement ce qu'a fait Damien Abad, parce que même en étant mis en cause dans des affaires dont j'ai déjà parlé, puisque je connais très bien le dossier, il a été réélu. D'accord ? Il s'est représenté devant les électeurs.
Exact.
Il était. Alors, si Monsieur Quatennens est courageux, parce qu'apparemment à LFI il y a que des combattants, que des guerriers, que des gens courageux, il démissionne et il se représente devant les électeurs. Voilà, c'est mon point de vue en tout cas.
19h11, si vous venez de nous retrouver, sachez-le, nous sommes avec Mela Douchenir, mais également avec Jean-Pierre Colombiès. Messieurs, nous allons tout de suite entamer le troisième sujet, vous savez quoi, qui continue de faire polémique. Oui, l'ancienne vice-présidente du Parlement européen. Le Qatargate. Alors, ces soupçons de corruption avec, évidemment. Oui, c'est énorme, c'est le moins qu'on puisse dire. Scandale au Parlement européen.
Oui, mais Adil, elle ignorait qu'il y avait 600 000 euros chez elle en espèces. Oui. Ça vous arrive jamais, vous, de trouver un euro qui traîne dans votre poche?
Un euro, ouais, mais alors 600 000.
Parce que vous cherchez mal.
Oui, vous avez raison. Je vérifierai.
Peut-être que votre compagne.
Entre les coussins des canapés.
Un scandale quand même. Jean-Pierre, un scandale quand même qui bouscule toutes les institutions européennes, quand même.
Mais ça bouscule le monde politique dans sa globalité. De toute façon, la corruption est partout. Alors, c'est pas la France qui va faire des morales en matière de probité politique. Je crois que on a eu des affaires de corruption, malheureusement, qui sont toujours en cours. Il y en a certaines encore en correctionnel. Je citerai pas de nom puisqu'ils sont pas encore condamnés définitivement. Mais enfin, quand même, on a quand même des ministres, des députés qui ont été mis en cause dans des affaires de corruption. Là où c'est plus grave, c'est que là, c'est une affaire d'ingérence étrangère au sein d'une institution européenne. C'est nouveau. C'est nouveau. On l'avait pas vu jusqu'à maintenant. Puis c'est dans des proportions qui sont quand même pas mal.
Ça a toujours existé, ces formes d'ingérence dans les institutions. Là, cette affaire là où me paraît effectivement ubuesque, donc déjà de dire.
Et ça n'est pas.
La défense, la défense. Mais alors là, c'est ça devient presque agaçant d'être pris comme ça pour des imbéciles. Déjà, c'est pas des sommes qui traînent à la maison dans l'absolu.
Ça dépend de la maison.
Non, mais même.
Ça dépend de la maison, il a raison.
Non, c'est pas des sommes qui traînent à la maison.
Certains sont équipés de coffres-forts, non?
Voilà, mais visiblement, c'était pas dans un coffre, c'était dans des sacs. Enfin, il y avait. Moi, j'attendrais quand même. Alors, toujours un peu prudent, moi, Adil, vous savez. J'attendrai quand même que tout ça soit jugé, parce que je dis, est-ce que c'est pas non plus... Ça, on trouve un sac dans la baraque. C'est tellement gros d'être absolument certain que c'était à elle, ou parce que franchement, c'est que en plus elle est vraiment pas. Pardon, mais c'est pas malin, quoi. Enfin,
ouais. Non, mais c'est pas malin. C'est je rappelle quand même pour
des espèces à une époque où les paiements en espèces sont absolument.
Oui, mais rappelez-vous, Boris Boileau, ancien ambassadeur à Tunis, qui était un.
Boris Boyon.
Boyon ou Boileau?
Boyon.
Voyons.
C'est fait gauler à la gare avec des
500 000 euros contrôlés à la préfecture, avec 500 000 euros. Vous ne savez pas d'où ça venait, les 500 000 euros.
On marque une pause, messieurs.
Dans l'UBS, on n'a pas
dit. Dans l'UBS, qu'on continue justement d'en parler. On marque une pause, la dernière pause justement de ces dernières tranches. Et on se retrouve pour parler du Qatargate, mais également aussi du Covid-19 qui est de retour, paraît-il.
Aïe.
Il viendrait de Chine. Il risque de contaminer, vous savez quoi.
Excusez-moi, j'ai ri, c'est énorme.
Bon, vous dites « aïe », mais bon, on va en parler. Hein.
Oui, on en
parle. Il pourrait affecter la France, l'Europe.
Pensez, le monde.
Pensez. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Et on continue de parler du Qatargate, justement, avec y compris le compagnon de la vice-présidente, l'ancienne vice-présidente, pardon, qui elle est impliquée, donc soupçonnée de corruption, soupçon de corruption avec du liquide, hein, beaucoup. Hein, on parle de 600 000 euros retrouvés donc dans son domicile. Est-ce qu'on va... la question que je vous pose, parce que c'est vrai que là, il s'agit du Parlement européen, un enjeu majeur, mais également aussi des décisions. C'est un lieu d'influence, Jean-Pierre Colombiès? Bah oui. Ou je mets là de chenir.
Alors le Parlement européen, il faut savoir que l'activité de lobbying est parfaitement licite et autorisée dès lors qu'elle est faite dans le cadre légal qui est celui de la déclaration du groupe, donc du lobby en question. Donc c'est le lobbyisme, et pour moi c'est quelque chose aussi qu'on devrait légaliser en France, parce que ça ne l'est pas officiellement, bien que ça existe. Hein, de manière,
aux États-Unis ça existe aussi.
Aux États-Unis ça existe. Ici pour des raisons cabalistiques on le légalise pas, mais il existe quand même. Donc l'influence est autorisé. Et là, en l'occurrence, c'est la frontière ténue entre la corruption et l'influence, alors qu'il semble, parce que c'est pas encore jugé, condamné, etc., avoir été franchi, mais en tout cas, oui, ça existe, l'influence existe, c'est normal, et que même des États veuillent redorer leur image auprès d'autres institutions, comme le Parlement européen, pourquoi pas, tant que c'est fait de manière parfaitement licite. Là, on parle du Qatar, mais ça aurait pu être largement n'importe quel autre État. Faut se poser la question de savoir quel était le but poursuivi, puisque visiblement, elle a fait des déclarations sur le droit du travail au Qatar. Alors, quand on sait effectivement les conditions de construction des stades, là, qui pour le coup sont avérées, hein, il y a de nombreuses ONG qui ont sorti des documents là-dessus, on peut effectivement penser qu'elle a contribué en tant que rouage à un dispositif plus grand pour, si j'ose dire, dédiaboliser ou en tout cas réduire un peu l'impact de l'information relative au mauvais traitement de certains ouvriers là-bas.
Je crois qu'il y a plusieurs choses. On va voir, l'enquête ne fait que commencer. On n'en est qu'au début.
Oui.
L'idée, enfin, ce qui sera intéressant de voir, c'est si le problème est d'ampleur. Si ça se limite à ce couple un peu de tuyaux de poêle qui cache 600 000 euros sous le matelas,
oui.
Ou si ça touche d'autres membres du Parlement européen ou de la Commission.
On parle de 4-5 quand même. Hein.
Faut voir. On va voir. On en saura plus. Maintenant, ça pose aussi un autre problème qui est tout aussi grave, voire peut-être plus.
Lequel ?
On sait déjà que les opinions publiques, et l'opinion publique française notamment, n'a aucune confiance aujourd'hui dans ceux qui sont supposés représenter les élus nationaux au niveau du Parlement européen. Il y a une défiance sur l'Europe aujourd'hui qui est quasi généralisée.
Une défiance, oui.
Voilà. Donc ça
va pas arranger d'ailleurs les extrêmes.
Oui, non, mais ça va pas arranger les choses, cette situation.
Qui explique même d'ailleurs.
Et bien sûr, ça va crisper les opinions, clairement.
En l'occurrence, pardon, mais en l'occurrence, elle s'est fait gauler et elle a été écrouée, jugée, peut-être condamnée, allez savoir. On peut aussi garder la présomption d'innocence, ça peut être un piège, ça peut être plein de choses, hein, cette histoire. Mais les institutions, elles sont composées d'humains, un humain c'est faillible. L'important, c'est que les dispositifs autour, les garde-fous, fonctionnent. Là, on peut se réjouir que ça ait été le cas. Parce qu'il y a elle, il y a son père aussi qui s'est fait attraper, etc. Donc
Et son mari.
Attendons de voir ce que.
Et d'ailleurs, c'est assez étonnant, d'ailleurs, parce qu'on se rend compte que la justice européenne fonctionne, j'ai presque envie de dire, un peu mieux que notre justice à nous.
Oui, c'est pour ça.
Puisqu'il y a un fait.
Le lobbying ici.
Voilà, il y a un fait de corruption qui est supposé. et ça se traduit immédiatement par une incarcération. Alors le droit, dans quelle catégorie de droit elle se situe, ça je ne le sais pas. En France, il serait très peu probable qu'elle soit là en prison, on va être clair. On voit la difficulté qu'on a à envoyer les élus et l'oligarchie politique devant les tribunaux, alors de là les incarcérer, oui. C'est pas gagné.
C'est pour ça qu'en légalisant le lobbying, on trace une ligne jaune. Et on la franchit ou on la franchit pas. Et au moins, c'est clair. Alors que chez nous, on aurait du mal, effectivement, à écrouer un parlementaire qui serait soupçonné parce que la frontière est pas définie. Et elle est floue. Et donc, on sait pas. Et donc, on sait pas s'il est de l'autre côté de la ligne ou pas.
Il y a quand même globalement une certaine retenue à envoyer un politique en prison en France. On a du mal.
Oui, oui, sans doute.
Le seul exemple, c'est Balkany, mais lui, il a 30 ans de passif derrière lui. Ça mérite un petit passage quand même.
Mais on a aussi pas défini les limites de ce qui était. Alors, il y a la morale pour ça, bien sûr. Il y a la loi aussi. Et la loi, sur certains sujets, n'est absolument pas claire sur les limites de ce qu'on appelle des groupes d'influence.
Même pour la corruption. Je reviens toujours à l'exemple de Cahuzac que j'ai cité la dernière fois. On a le cas de quelqu'un qui a mis de l'argent.
De l'évasion fiscale.
Ouais, mais c'est du vol.
Oui, mais pas de la corruption. Alors, Jérôme Cahuzac, mais, les deux sont graves. Non,
mais là, j'élargis le débat.
On n'est pas du tout dans la même chose. Là.
Justice représentant les goûts en France, on a du mal à incarcérer des gens qui ont occupé de grandes fonctions en France.
Ou alors, les incarcèrent à la santé, qui est un établissement carcéral avec un cadre peut-être moins.
VIP pour ceux qui sont concernés. Mais bon.
Et là aussi, c'est une forme d'injustice.
Aux États-Unis, Madoff est mort en prison. Oui. En France, ça n'arriverait pas. Non, ça n'arriverait pas. Je ne connais pas un seul oligarque politique qui a touché de l'argent en off, qui a été corrompu, fois plein chat et chat, qui ait fait plus d'un an de prison. J'en connais pas.
Messieurs, 19h25 déjà. Il nous reste quelques minutes à peine. Vous savez quoi ? Je voudrais absolument qu'on traite de ce sujet. Alors, depuis la levée des restrictions sanitaires liées à la zéro politique, vous savez, suivi.
Politique zéro Covid.
Zéro Covid en Chine, je parle en Chine notamment. Eh bien. Il paraît que le nombre de contaminations est en forte hausse en Chine et qu'avec justement le risque d'émergence de nouveaux variants et notamment, vous savez quoi, ça pourrait affecter la France mais aussi le continent européen, Jean-Pierre Colombiès.
Pourquoi vous commencez par moi, très cher Adil ?
Ou Ménadou Chénir, comme vous voulez.
Moi, vous savez ce que j'en pense.
Ménadou Chénir, alors.
Très bien, je dirais quand même ce que j'en pense.
Mais avec grand plaisir. On sait très bien, maintenant, on a malheureusement, je ne sais pas, mais on a plus de 2 ans de recul sur le sujet. On sait qu'un virus, ça voyage vite. Même si la Chine a pris des mesures très, très contraignantes pour contenir. La menace, formellement, s'il y a une grosse vague en Chine, elle arrivera chez nous. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que nous, ici, avons compris la leçon ? Je vais vous redire certains termes. Nombre de lits en réanimation, vaccination des...
Oui, vous allez me parler des décès ?
On sait
des décès,
etc. Est-ce qu'on a compris la leçon, qu'on apprend à la dure ? Quand je dis « on », c'est des pouvoirs publics et même les Français, depuis 2 ans. Parce que moi, je prends aussi de temps en temps les transports.
Vous mettez le masque ?
Alors moi, je le mets, mais je passe pour un... Voilà, mais donc du coup, maintenant, je privilégie la voiture parce que plus personne ne le met dans les transports. Et on est limite parfois regardé un peu de travers quand on met le masque. Pareil, quand on ne serre plus la main, est-ce qu'il m'en veut ou est-ce que. Voilà. Non, mais attendez.
Serre-moi la main.
Adil, moi,
certains qui me disent. Mais
je tiens à saluer quelque chose.
Serre-moi la main.
Pour nos auditeurs qui ne nous voient pas, on a dans ce studio une bouteille de gel hydroalcoolique sur la table. Bravo, parce que ça se raréfie dans les lieux publics.
Vous en avez partout, un peu partout.
Moi, je pense
même dans les bureaux, la rédaction.
La vague va arriver, mais je crois malheureusement
que. La vague va arriver, on est en plein dedans, qu'est-ce qu'on va raconter ?
Il y avait une citation, alors je ne sais plus si c'était Warren Buffett, je ne sais plus qui, mais qui disait que c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui nageaient à poil. Pardon.
Jean-Pierre, vite. En quelques secondes, Jean-Pierre,
je l'ai dit plusieurs fois, mais on est chez Orwell, on est dans Orwell, on est dans la volonté aussi de paniquer la population, clairement. Parce qu'on est dans une période de crise dont le gouvernement est en grande partie responsable et qu'il faut, faire peur un petit peu à tout le monde. Bien sûr qu'il y a une vague de Covid, mais de la même façon qu'il y a une vague aussi de bronchite et de grippe. J'ai une petite pensée pour Bilal, notre ami Bilal, qui est actuellement couché chez lui, qui a de la fièvre, qui a la grippe, par exemple.
Donc, on lui souhaite un bon rétablissement.
Bien évidemment. Mais ce que j'ai déjà fait par SMS. Et là où je veux en venir, c'est que la problématique du gouvernement, c'était évoqué, c'est l'appauvrissement total, je suis gentil,
du système hospitalier.
Du système hospitalier. Et ce que craint le gouvernement, c'est, je dirais, la synergie, la convergence de toutes les pathologies diverses au même moment à l'hôpital. Donc si on peut éviter le Covid, du moins c'est l'idée de notre gouvernement, tant mieux. Mais ils n'y arriveront pas. Parce que même pendant le Covid, je rappelle que des avions arrivaient tous les jours de Chine. Et qui n'était pas contrôlé, et qu'on a laissé entrer tout le monde, et qu'aujourd'hui il suffit d'aller à Roissy.
On a compris la leçon.
J'ai juste envie de vous dire prudence. Voilà,
prudence.
Alors si vous considérez que vous devez mettre votre masque, bah mettez-le, tout simplement.
Et de l'hygiène, et de l'hygiène, des conseils d'hygiène.
Merci à Jean-Pierre Colombiès, ancien commandant de la police, mais également aujourd'hui comédien. Merci à vous, notre ancien aussi élu, mais également aussi consultant numérique. Merci à Mélanie Douchénir.
Merci Adil, merci Jean-Pierre.
Je vais accueillir Claude. Bonsoir Claude.
Bonsoir Adil.
Alors je me doute un peu, hein, évidemment, du programme de ce soir qui nous attend. Mais dites-nous tout, racontez-nous dans Time Sport, dans une poignée de secondes, qu'est-ce qui nous attend?
Qu'est-ce qui nous attend, Adil? Écoute, on parlera de la demi-finale d'hier, hein, okay. La France qui a bien sûr donc battu le Maroc et se retrouve en finale face à l'Argentine, pardon. Donc,
ça va être compliqué.
Une grande finale qui nous attend.
Ça va être compliqué cette finale.
50-50, les enjeux sont différents. L'histoire du football nous attend dimanche soir, en tout cas.
À 16h.
À 16h.
Absolument. Claude, dans une poignée de secondes à peine, eh bien, vous allez prendre ma place pour justement vous retrouver dans Time Sport. Et on salue d'ailleurs, tiens, Bilal, c'est Bilou, s'il nous écoute. Ouais. Bon rétablissement à lui.
Ouais, il est couché, là, il nous écoute.
Il est à la grippe, le pauvre. Allez, reposez-vous, mon cher Bilal, repose-toi bien. Et vous allez revenir en forme, notamment. À la réalisation, c'était Anthony. Merci à Anthony, à la réalisation. Mais surtout, je voudrais faire une spéciale dédicace, vous savez à qui? À tous ces nombreux auditeurs. Vous êtes grave nombreux, je vous le dis, à nous suivre tous les jours. Eh bien ça, c'est un grand merci à vous. Et à demain, pour vendredi, dernier jour de la semaine, avec autant de plaisir, mais surtout, on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.